Dernier rendez-vous, donc, c'est le sacrement de mariage. Alors, on insiste une dernière fois pour vous, parce que comme vous avez demandé un mariage dans la foi en Jésus-Christ, donc on insiste pour que vous en compreniez le sens. Je vais vous donner un exemple tout frais de cet après-midi. Parce que je suis au bureau des mariages de Paris, c'est moi qui vérifie tous les dossiers avec 7 collaborateurs. Mais je suis le responsable juridique de ces collaborateurs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cet après-midi? Vous avez un homme qui s'est marié dans les années 2009 avec une musulmane. Très bien. Il s'est marié civilement. Et on est en 2018, cet homme est pratiquant et regrette de ne pas s'être marié religieusement avec sa compagne civile. Et donc, il va voir un prêtre, enfin, il voit le prêtre souvent, et lui dit, voilà, quelle est ma situation? Et le prêtre, lui, se dit, ah, ben... C'est simple, est-ce que votre épouse civile, votre compagne, vous allez vous marier religieusement, en prenant Dieu à témoin. Seulement, dans le mariage musulman, lui a une crainte, il y a certains imams qui veulent absolument que le fiancé dise la shahada, c'est-à-dire que Dieu est le Tout-Puissant et le Miséricordieux et Mahomet son prophète. Or, un chrétien ne peut pas considérer Mahomet comme un prophète, annonçant au nom de Dieu que Jésus est un simple prophète, qu'il n'est pas le Verbe divin et qu'il n'est pas mort sur la croix. Et que Mahomet, lui, est le sceau des prophètes, qui, lui, 600 ans plus tard, va dire que finalement on peut à nouveau être polygame, on peut à nouveau répudier sa femme. Et puis, avec un contenu dans le Coran assez fort par rapport à, si vous voulez, au prosélytisme. C'est-à-dire que si les personnes ne veulent pas se convertir, on a le droit de les tuer. Et, alors, vous avez des musulmans qui sont, qui n'aiment pas ces passages du Coran et d'autres qui sont plus ou moins sensibles. Et d'où les disputes et les querelles religieuses actuellement, de choc de civilisation, tout ce que vous voulez. Mais là, ce n'est pas le problème. Elle avait été mariée. Elle avait été mariée de force, dit-elle. Sa famille, en Algérie, lui avait trouvé un mari et elle devait épouser cet homme, contente, pas contente. Et donc là, le prêtre ne s'y était pas intéressé. Il y a un problème. Pourquoi ? Parce que Jésus est vraiment Dieu. Et que quand il y a 2000 ans, il a dit, il n'en était pas comme ça dès le commencement, vous devez vous aimer d'un amour personnel et dans la persévérance et dans le pardon. Il a dit ça, pas seulement pour les baptisés, mais pour tout le monde. Ce qui fait que la nature humaine en elle-même doit retrouver sa bonté originelle avec l'aide de Dieu, mais avec dans l'ère de l'incarnation, de la venue de Dieu sur terre. Ce qui fait que la relation entre un homme et une femme est un lien sacré, un lien profond. Ce qui fait que elle est vraiment mariée avec cet homme. Alors, dit oui, mais ils ont divorcé civilement. Donc le lien est rompu. Ben non, le divorce est une institution fiscale, civile, mais pas religieuse. Alors ben si quand même, vous avez les juifs qui répudient. Souvenez-vous de ce que je vous avais dit, il n'y a pas de divorce dans la religion juive actuelle. Si ils se séparent même par consentement mutuel d'un point de vue du divorce légal, l'homme doit faire un acte de répudiation vis-à-vis de sa femme. Vous voyez ? C'est, ça vous semble étrange, mais c'est comme ça. Ils sont figés depuis 2000 ans, et donc c'est la répudiation. De la même façon, il n'y a pas de divorce de la part de la femme dans l'islam. L'homme la répudie. Avec une formule très simple, hein, c'est, je ne sais plus, tala, 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 enfin, il y a, on dit trois fois un mot, on dit part, 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 ou voilà, et elle n'est plus la femme. C'est très, très, très simple. Eh bien, cela n'a aucune valeur parce que Jésus est Dieu et qu'il a imposé cela à l'humanité. Vous devez, c'est un commandement, vous devez vous aimer les uns les autres. Alors, ce qui fait qu'elle, même mal mariée, elle est mariée. Ce qu'on peut faire, c'est que les prêtres catholiques ont une juridiction universelle et prétentieuse et orgueilleuse. On peut juger d'un mariage entre deux non-baptisés. Et le tribunal ecclésiastique local, provincial, diocésain, départemental, peut demander à cette femme comment on vous êtes mariée, on m'a contrainte, on m'a forcée, mais on fait une enquête de loi naturelle, de vérité naturelle, et les prêtres vont dire au nom de Dieu, votre lien ne s'est pas formé parce que vous avez, on a usé contre vous de violence, de contrainte. Au-delà de votre volonté, vous n'avez pas accepté de vraiment ce mariage. Je vous avais parlé des mariages arrangés qui existent toujours en Inde. Vous voyez, il y a des familles, mais même chez les catholiques, hein, qui organisent le mariage. Bon. Voilà un cas particulier. Donc, lui voudrait se marier avec sa compagne, mais elle est déjà mariée. Donc on va devoir... Mais il y a deux possibilités. Ou ils ont beaucoup de courage, mais ils ont eu du courage aussi, elle a eu du courage pour divorcer, pour la procédure du divorce, pour aller au consulat d'Algérie et pour faire déclarer la nullité de son... le divorce civil algérien. Et elle s'est mariée civilement ensuite en droit français, le droit algérien ayant été respecté. Mais tout ça, c'est pas anodin quand même comme démarche. Là, qu'est-ce qu'on va lui demander ? D'aller voir un prêtre, parce que elle aime cet homme qui est chrétien, et au nom du christianisme de cet homme qu'elle aime, elle va demander à des prêtres chrétiens de déclarer pour son mari que le lien ne s'est pas formé. Vous voyez ? Et parce que le divorce n'est pas possible, si vous voulez, ce n'est pas possible. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais je vous l'avais dit dès le début, hein, dès la première séance, je vous ai dit, vous êtes partez tout de suite si vous pensez faire ça uniquement pour faire plaisir à votre maman ou à votre grand-mère. C'est religieux. Et religieux, il n'y a pas de séparation possible. Et deuxième possibilité pour elle, c'est de demander le baptême. Alors vous dites, mais vous dites qu'il n'y a pas de séparation possible. Qu'est-ce que vous allez nous dire ? Si elle demande que les mérites de Jésus innocent et juste soient appliqués à son âme et que son premier mari persiste dans le divorce, dans la séparation de corps, alors on peut lui permettre de se marier une deuxième fois si elle demande de progresser dans un amour profond et que son deuxième mariage, à ce moment-là, soit marqué de la volonté de ne jamais divorcer, de ne jamais vivre cette séparation. C'est ce qu'on appelle le privilège de Saint Paul. Saint Paul dit, si vous avez deux non-baptisés qui se marient, si l'un persécute l'autre parce qu'il devient chrétien ou qu'il le quitte, alors elle peut se remarier, cette personne. Alors comprenez bien, c'est parce que son deuxième mariage sera dans une plus grande compréhension de l'amour humain, dans le pardon chrétien. Dites-moi, bon, vous êtes un peu culotté, parce que justement, si elle est baptisée, elle devrait patiemment attendre le retour de son premier mari non baptisé, héroïquement. Mais non, la perfection du lien est entre deux baptisés. Vous voyez, alors vous dites, ah ben, c'est décidément, c'est vraiment... C'est pas un peu juridique ça? Vous n'êtes pas un petit peu un canoniste et vous... Eh bien, les prêtres, justement, non canonistes, peuvent le dire avec des mots moins précis, avec leurs propres mots. Alors, je vais utiliser des mots plus larges. L'amour. L'amour parfait, c'est l'amour oblatif. C'est l'amour que Jésus montre en disant « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » La vraie religion, c'est un Dieu exigeant. Parce qu'on est malade et on meurt à cause du péché. Il faut empêcher les pécheurs d'être immortels et nous sommes tous unis. Donc même les innocents meurent aussi par solidarité du genre humain. Mais les pécheurs aussi, du coup, ils meurent. Ils sont mortels. Et donc, cet amour oblatif, il marque profondément l'institution naturelle du mariage, en lui donnant un sceau particulier qu'on appelle le lien sacramentel, le sacrement de mariage. Il est sacré naturellement, et ce lien devient sacramentel, c'est-à-dire qu'il y a une promesse de Jésus qui meurt sur la croix et qui ressuscite, qui pardonne 77 fois 7 fois. Ce n'est pas 490 fois, comme je vous ai dit, vous n'allez pas prendre un petit carnet, et à la 491e fois, j'ai dit c'est bon, ça va. Vous êtes assez pardonné. Hein. Et bien là, voyez-vous, ici, ai-je connu des moments de prière dans mon enfance, mon adolescence ou plus récemment? Comment ma prière a-t-elle évolué? Pour moi, qu'est-ce que prier? C'est pour ça que je vous ai dit, si vous ne l'avez pas vu, de voir le Jésus de Nazareth de Franco Zeffirelli, il faut absolument que vous rénoviez votre baptême en disant « Mais qui est Jésus ?» Vous ne pouvez pas vous marier religieusement sans rénover quelque peu votre foi en Jésus. Alors, il y a des personnes qui disent « Bon, moi, dans le couple, je viens parce que, voilà, elle est plus croyante, il est plus croyant que moi, tout ça, mais bon, j'ai été baptisé, mais bon. » Mais si vous voulez, il faut faire aussi peut-être un effort. C'est pas parce que la foi et la charité se refroidit en Occident et dans d'autres pays qu'il faut que vous soyez négligent à vous dire, mais en fait, pourquoi on est en 2018 et pourquoi on va passer en 2019? Qu'est-ce qui s'est passé dans les autorités publiques pour qu'on mette un calendrier universel à zéro? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'Empire romain pour que pendant 300 ans, sans une seule agressivité de la part des chrétiens, sans même tirer les glaives alors qu'il y a eu des armées chrétiennes, les armées romaines qui étaient devenues complètement chrétiennes. Les Égyptiens, dans les années 300, étaient quasiment tous chrétiens. Vous savez comment ça se dit en... Je ne sais plus quelle langue. Égyptien, ça veut dire... copte, ça veut dire égyptien. Et donc, actuellement, par les invasions arabes, les Égyptiens musulmans sont des migrants par rapport aux vieux Égyptiens coptes, qui sont les plus anciens Égyptiens sur la terre d'Égypte. Et ce sont eux qui forment actuellement 20% de la population et qui sont chrétiens. Vous voyez. Et À un moment donné, il y avait une légion romaine égyptienne au service de l'Empire. Ils faisaient la guerre aux limes, c'est-à-dire aux limites, avec les Saxons. Et à un moment donné, on leur a demandé de sacrifier à l'empereur déifié. Et ils ont dit, ah, non, on obéit à l'empereur, c'est le chef, mais il n'est pas Dieu quand même. Alors on les a décimés, c'est-à-dire qu'on tuait un soldat sur 10, et les 9 qui restaient, on disait, alors, vous sacrifiez? Non. Et 1 sur 10, 1 sur 10, 1 sur 10, et ils sont tous morts. Mais on estime à plus de 1000 le nombre de soldats qui se sont laissés tuer, alors que c'était des soldats aguerris et qui avaient des armes, et qui n'ont pas tiré leurs armes. Parce qu'ils ne voulaient pas se révolter contre l'empereur. Ils ne voulaient pas qu'on dise que les chrétiens se révoltent militairement contre l'empereur. Et même avec la révolte de Spartacus, c'était une révolte d'esclaves, avec Quo Vadis, où le film Spartacus, je ne sais plus, il présente une partie chrétienne dans la révolte des esclaves. Ce n'est pas vrai. C'est pas, les esclaves chrétiens ne se sont pas révoltés militairement contre leurs maîtres romains. Et donc ce côté pacifique, profond, malgré les péchés, malgré les guerres opportunes lors des croisades, lorsqu'on est allé aider les chrétiens d'Orient, comme je vous l'ai dit, que les Vénitiens ont attaqué le port de Constantinople, donc c'était entre chrétiens, hein, pour que le concurrent soit moins puissant. Hein. Eh bien, fondamentalement, quand vous vous mariez en Jésus-Christ, vous vous mariez en un Dieu qui s'est fait homme. Et pour lequel, à un moment donné, l'Empire romain, le bassin méditerranéen, a dit, c'est Dieu, on va mettre tout à zéro. On va décréter que l'année de sa naissance est l'an zéro, l'an de grâce. Donc, le 31 décembre, on va être au 1er janvier, on va être dans l'an de grâce 2019. Alors vous avez les historiens qui vont dire, oui, mais il est peut-être né en moins 4, en moins 3, en moins 6. Bon, d'accord. 2019, année depuis la naissance de Jésus à Bethléem. Et c'est au nom de ce petit enfant que vous allez vous marier. Parce que Jésus a rétabli l'amour humain. La patience et le pardon. D'où l'importance quand même de le connaître. Et du coup, vous voyez, des personnes non baptisées sont elles-mêmes obligées de tenir, un jour ou l'autre, on leur dira, le vrai amour, il est unique, il est à la vie et à la mort, et il est ouvert sur la vie. Mais c'est vrai pour tout le monde. Ah bon? Et comme je vous l'ai peut-être déjà raconté, dans ma vie, j'ai rencontré un vieux couple de musulmans et un vieux couple de japonais, shinto, musulmans. Et voilà, ben ils avaient réalisé, si vous voulez, la profondeur et la beauté de la nature humaine. Ils étaient là, deux petits vieux sans âge. Les japonais, on ne sait jamais combien qu'ils âge ils ont. Entre 70 et 90 ans, de toute façon, ils sont dans le même état. Hein, donc, mais pour les Maghrébins, ça se voit un peu plus, ils sont moins actifs. Une petite japonaise, si vous voulez, à 70 ans, elle marche comme celle qui a 90 ans, donc vous ne pouvez pas savoir. Mais les Maghrébins, comment dire, quand vous avez une vieille maghrébine de 90 ans, voilà. Eh bien, ce vieux couple que j'avais vu à Bordeaux, vous voyez, c'était beau de voir ces personnes qui. Et en Turquie, je vous l'avais peut-être déjà dit, donc en Turquie, c'est la monogamie depuis un certain temps. Ils sont musulmans, il y a quasiment plus de polygamie en Turquie depuis 200 ans. Il n'y a que le grand Turc qui gardait un harem, mais sinon le peuple était très peu polygame, et jusqu'à présent où il est presque plus du tout. Donc pour moi, qui est Dieu? Qui est le Christ? Quelle relation ai-je avec lui? Et jusqu'à maintenant, qu'a-t-il représenté dans ma vie? Alors donc, je vous conseille, parce que ce film, l'acteur qui joue Jésus, est très réaliste. Si vous entrez dans ce film, ça va vous, comment dire, bien vous préparer, si vous voulez, à vous marier au nom de Jésus. Ensuite, vous avez aussi à la fin du petit fascicule des retraites, où vous allez de manière plus intensive et on va vous proposer probablement d'assister à une messe. Vous voyez, la messe, c'est le jeudi soir, Jésus prend le pain, prend le vin et anticipe sa mort sur la croix du Vendredi Saint. Il transforme le pain en son corps, le vin en son sang et le donne à ses apôtres qui comprennent que Jésus va mourir. Mais mystiquement, au moment du Jeudi Saint, de la première messe, il signifie sa mort et il meurt même. Parce que le sang séparé du corps, ça signifie la mort. Ce sacrifice non sanglant de la messe sera sanglant sur la croix. Et il est rendu présent à chaque messe depuis la résurrection. C'est la raison pour laquelle on peut être très joyeux pendant une messe, et à un moment donné, quand même, il faut se recueillir. Et aux paroles de la consécration, normalement, on ne joue pas du banjo ou. On a beau essayer de rendre la messe plus attirante, plus ceci, plus cela, à un moment donné, il faut aussi donner le goût du sacré, quoi, du mystique. Alors, pour moi, qu'est-ce que croire? Et si Dieu n'existait pas, qu'est-ce que cela changerait dans ma vie? Ça, c'est des questions diverses et variées. À quoi dois-je ma foi? Qui me l'a transmise? Comment se vivait la foi dans ma famille? Est-ce que je nourris ma foi? Est-ce que je vais à la messe chaque dimanche? Est-ce que je vais aller à la messe pour le jour de Noël, la nuit de Noël, le jour de Noël? Quels sont éventuellement les enseignements de l'Église que je ne comprends pas ou qui me posent des problèmes? Eh bien, c'est là que, au moment d'une préparation au mariage, on vous dit attention. Vous mariez au nom de Jésus-Christ. Donc c'est quand même le moment aussi de penser à ce à quoi vous croyez. Quels sont éventuellement comment mon fiancé ou ma fiancée vit-elle sa foi? Suis-je prêt à respecter l'autre dans sa vie spirituelle? Exprimons-nous notre foi de la même façon? Voyez, est-ce que vous priez ensemble? Est-ce qu'un soir vous allez dire, je crois en Dieu, notre Père? Est-ce que vous allez, comment dire, trouver la prière âme du Christ? Parce qu'il n'y a pas de prière précise pour parler à Jésus. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Donc il y a une prière scoute qui vient en fait de Saint Ignace de Loyola, c'est âme du Christ, sanctifiez-moi. Sang du Christ, purifiez-moi. Eau du côté du Christ, désaltérez-moi. Enfin, vous voyez, il y a toute une déclinaison de la vie du Christ par rapport à nous. Je vous demande pas forcément de voir la Passion de Mel Gibson, d'autant plus que la flagellation, la présentation de la flagellation avec des ongles de fer, je vous l'ai peut-être déjà dit, est fausse. Le Christ a été flagellé avec des billes de plomb attachées à des lanières de cuir. Vous voyez? Sur le sphère de Turin, on voit les impacts des petits haltères, vous voyez, qui étaient attachés à des lanières, mais pas des ongles de fer. Et dans la Passion de Mel Gibson, c'est un Australien, c'est un dingo. Mais par contre, pour tout le reste, c'est vraiment ça se tient. Mais la flagellation, c'est un gâchis, c'est par rapport à tout le film. À chaque fois que je passe la Passion de Mel Gibson pour le Vendredi Saint, pour le Dimanche des Rameaux, je passe la flagellation. Il y a le début, et puis à un moment donné, quand ils prennent les ongles de fer, plouf, je passe. Parce qu'en fait, ce film est quand même très réaliste par rapport à la souffrance du Christ. Et donc, qu'attendons-nous du sacrement du mariage? Dans le sacrement du mariage, Jésus va vous donner une grâce particulière pour vous deux, jusqu'à votre mort. Si l'un des deux meurt, vous êtes délié de votre engagement terrestre et vous pouvez vous aimer spirituellement comme vous vous aimerez quand vous vous retrouverez dans la vie éternelle. Vous pouvez même choisir de ne pas vous remarier. Mais Jésus, lui, promet qu'il va vous aider plus que les non-baptisés. C'est injuste, c'est pas égalitaire, voilà. Il y a une promesse particulière qui est liée aussi à votre foi. Et même si votre foi est tiède ou faible, Jésus vous donnera plus de grâce. Parce qu'il y a un engagement de son côté qui est très profond. Il aime les non-baptisés. Hein, et il leur donne des grâces, des aides. Mais à un baptisé, au nom de sa passion, au nom du fait que vous avez été plongé dans l'eau et que vous êtes sorti de l'eau, vous êtes mort et ressuscité, il y a une aide particulière. Et c'est ce qu'on appelle les grâces sacramentelles. Au nom de la croix de Jésus et au nom de sa résurrection, il va vous aider quand vous allez vous lasser, vous fatiguer, vous disputer, vous quereller, ou alors vous aimer profondément mais être face à une grande épreuve, comme la mort d'un enfant. C'est à ce moment-là, il va être très présent. Mais il va être aussi très présent pour vous faire fructifier alors que vous n'avez pas d'épreuve et que vous êtes joyeux et que tout va bien. Qu'est-ce que le Christ attend de notre couple? Qu'est-ce que l'Église attend de notre couple? Que pouvons-nous apporter à l'Église? Que pouvez-vous apporter au monde? Mais, vous allez me dire, mais oui, mais on a tellement peur de ça. Mais ne divorcez pas. Montrez au monde qu'on peut s'aimer. Et voilà. Voulons-nous devenir saints en couple? Comment? Comment la vie de nos saints préférés peut-elle nous aider? Qu'est-ce que j'attends du jour de la célébration de notre mariage? Et au moment où vous êtes là, moi je vous demande de vous confesser pour votre mariage. Et le prêtre qui va célébrer votre mariage, vous lui demandez avant, ou vous vous confessez dans la semaine avant, mais posez-vous la question de la confession. Dire sa vie, dire ce qu'on a sur la conscience très simplement. Une confession n'est pas forcément longue, même si on ne s'est pas confessé depuis des années. L'Église vous demande de vous confesser au moins une fois par an. Elle vous demande de communier au moins une fois par an. Donc ceux qui n'étaient pas très 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 fervents, n'est-ce pas, faisaient leur Pâques, c'est-à-dire qu'on doit se poser la question de la présence de Jésus dans l'hostie, d'une manière réaliste, au temps de la résurrection, au temps de Pâques, dans le mois avant, le mois après. Et la confession, quand vous voulez, en un an. Donc la plupart du temps, les gens se confessaient et communiaient pour Pâques. Pour votre mariage, tout dépend. Si vous ne vous sentez pas assez fervent ou assez croyant, vous n'êtes pas obligé de communier. Il faut que vous compreniez bien que la communion, c'est de recevoir Jésus lui-même. La visite de Jésus. Voilà. Vous dites, mais si c'est un peu lointain dans votre tête, on mange Jésus. Et, si vous voulez, Dieu a voulu ce moyen pour atteindre notre âme d'une manière mystique. C'est une petite nourriture simple, l'hostie. Oui. qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? Voyez. Qu'est-ce que vous attendez de la bénédiction nuptiale? Nous semblerait-il bon que notre couple puisse faire le point régulièrement sur les aspects positifs et négatifs de notre vie en Jésus-Christ? À force de ne pas pratiquer, à force de... Vous voyez, vous ne vous souvenez pas que vous êtes dans un mariage sacramentel. Mais n'oubliez pas que ceux qui ne sont pas baptisés sont dans un mariage sacré. Ce qui fait que eux aussi doivent s'aimer au nom de Dieu. Mais vous, normalement, vous connaissez mieux Dieu. Ça ne se dit plus de nos jours, hein, donc je vous le dis à mes risques et périls. Est-ce que je cherche dans la prière à avoir le même regard que le Père, que Dieu, sur ma fiancée, mon fiancé? Et un amour inlassable. La Vierge Marie n'est pas Dieu. La Vierge Marie est une femme. La Vierge Marie est une mère, mais c'est Dieu qui l'a créée. Dieu a plus de patience et d'amour qu'une femme, qu'une mère. C'est Dieu qui a créé l'âme féminine. Donc il a tous les trésors de l'âme masculine et de l'âme féminine. Il est Dieu. Mais de fait de son autorité et de sa puissance et du symbole que ça représente pour nous, il s'est incarné en homme. N'en déplaise aux féministes américaines qui veulent absolument maintenant dire que Dieu peut être très bien une femme ou que Jésus était, ben, c'était un homme. Voilà. Mais justement, Jésus, il est vraiment un, comment dire, l'époux. C'est-à-dire qu'il a un amour qui dépasse le péché originel chez l'homme. Qui se vexe, qui est trop fier, qui est... Est-ce que je cherche dans la prière à avoir le même regard que Dieu le Père? Quels sont les moyens que nous envisageons pour la progression spirituelle de notre foi? Parler à voir un prêtre, devenir pratiquant régulier, comme l'Église nous le demande, hein, comme Dieu nous le demande, dans le troisième commandement. Voilà. Association, paroisse, mouvement. Avons-nous déjà eu l'occasion de prier ensemble? Voudrions-nous faire un pas dans cette direction? Qu'est-ce qui nous aiderait pour prier? Avons-nous peur de nous dire nos divergences, nos désaccords sur la prière? Où suis-je dans la pratique sacramentelle? La messe du dimanche? La confession? La confirmation? Alors, la confirmation, c'est quoi? C'est une prière particulière de l'Église pour le baptiser, pour que l'amour du Père et du Fils renforce son dynamisme et son action dans notre âme. On est baptisé au nom d'un Dieu qui est Père, qui nous donne tout son être en son Fils et son amour dans son esprit. Donc, ce n'est pas à la confirmation qu'on a l'esprit d'amour du Père et du Fils, l'Esprit Saint. C'est dès le baptême. Alors qu'est-ce que c'est que la confirmation? On demande à l'amour de Dieu d'être plus intense dans notre vie. Chez les orientaux, ils ont trouvé la solution, ils confirment le bébé tout de suite après le baptême. Et la confirmation consiste à mettre de l'huile d'olive bénie pendant la semaine sainte sur le front. Cette huile pénètre dans la peau, de manière la plus naturelle qui soit, et signifie que l'Esprit Saint intensifie sa présence dans le corps et dans l'âme. L'onction est faite sur le front parce que cette force d'âme affronte ce qui est face à nous. Et il y a une petite coutume amusante qui n'est pas obligatoire dans la confirmation. C'est qu'après la confirmation, l'évêque vous donne une gifle. Vous voyez. Alors, en général, c'est pas... on aurait des plaintes, même dans les siècles passés. Donc il donne une tape. Et pourquoi ? Parce que la vie va nous frapper à cause des épreuves. Et rester dans l'amour malgré, pas seulement justement les insultes, mais les épreuves de la vie. Un cœur et un amour plus enracinés par la confirmation. Ici, on prépare la confirmation à partir de janvier, mais c'est assez large, c'est-à-dire que vous pouvez encore réfléchir et vous inscrire en février. Et la confirmation est donnée en juin. Mais comme c'est un sacrement et qu'on se confesse avant ce sacrement, vous n'êtes pas obligé d'être confirmé. L'Église demande la confirmation pour le mariage, si possible et au mieux. Mais si vous ne vous sentez pas de vous confesser, si vous ne vous sentez pas de croire suffisamment, de vous recueillir suffisamment à recevoir Jésus dans la Sainte Hostie, le minimum qu'on vous demande pour le mariage, c'est l'unité, l'indécibilité, la fidélité, l'ouverture à la vie, comme n'importe quel Chinois, n'importe quel aborigène et n'importe quel Esquimau qui a un cœur droit. Ensuite, il y a un minimum quand même de foi chrétienne chez vous, et c'est comment nourrir le Christ, l'arrivée historique du Christ. Et là, c'est extraordinaire. Moi, j'ai plus que 10 jours à vous dire pourquoi on passe en 2019. Pourquoi toute la Chine va voir le monde entier passer en 2019. Et eux-mêmes, faisant du commerce avec tout le monde, participer un peu aussi à la nouvelle année, même si ce n'est pas leur nouvel an dans leur culture. Pourquoi le christianisme a imposé cette date au monde entier par le fait même, pas par la guerre. Et c'est étonnant quand même. Hein, c'est étonnant. 2019 pour le monde entier. Alors vous avez des juifs très 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 attentifs qui disent non, on est en 5777 depuis la création du monde. Bon. Les musulmans observants, non, on est en 1320 depuis que Mahomet a lancé le djihad à Médine ou à la Mecque, je ne sais plus. Et pourtant, 5577 pour les uns, 1300 et quelques pour les autres. Les Chinois, je sais pas, j'avoue, je ne sais pas quelle est leur compute, leur compte. Et voilà. Grâce du sacrement du mariage, grâce du sacrement de confirmation, et d'un point de vue de la psychologie, voyez-vous, dans les feuilles que je vous avais données, je voulais simplement, pour terminer avant que ça refroidisse, voyez, c'est les petites feuilles que je vous ai données, qui sont mignonnes comme tout. Alors vous avez des feuilles qui sont récapitulatives des quatre piliers, que je vous laisse relire vous-même. Quand nous nous verrons individuellement, je vous donnerai un livret où il y aura les textes à choisir pour la messe ou pour le mariage lui-même. Mais si vous avez un prêtre que vous connaissez bien et qui veut préparer le livret avec vous, alors on passera le relais. On ne va pas doubler. Rien qu'aujourd'hui, j'essaierai de vivre suivant la journée sans tenter de résoudre le problème de toute ma vie. Le bienheureux Jean XXIII, qui est maintenant Saint Jean XXIII, était d'un bon sens et d'une sagesse personnelle exceptionnelle. Bon, il a été canonisé. Mais même s'il n'avait pas été canonisé, c'était quelqu'un d'incroyablement les pieds sur terre. Et donc, mettez ça de côté. Si vous le relisez dans 10 ans et que ça vous dit quelque chose. Les petites béatitudes du père de Chivray aussi. Les petites vertus du foyer qu'on n'avait pas vues la dernière fois. La courtoisie. L'effacement, mais je ne vous dis pas la timidité, mais savoir à un moment donné laisser parler l'autre, ce qui n'est pas ma vertu principale. La gratitude, savoir dire merci. La sincérité, la discrétion, l'espérance, la bonne humeur, la bienveillance, l'économie, ça c'est drôle, de ne pas être dépensier. L'exactitude, à un quart d'heure près, la patience et la persévérance, ou la constance. De temps en temps, voyez-vous, repensez à ces mots qui expriment des vérités. Et là, je vous donne une feuille où il y a les 10 commandements, bon, où il y a les tempéraments, le bilieux, le sanguin, le nerveux, le lymphatique, qui correspondent au mélancolique, le sanguin, le colérique et le phlegmatique. Je vous donne les péchés capitaux. Ça, on le verra un peu ensemble pour, faire une petite reprise, si vous voulez, dans 3 mois. Voyez, parce que ça, ce sont les vertus humaines. Voyez, et les passions humaines. Vous avez aussi les dons du Saint-Esprit. Vous avez les fruits du Saint-Esprit, la joie, la paix, la patience, la mansuétude. Vous voyez, enfin, on verra. Ce que je vous dis pour terminer avant de manger, c'est la vie, elle tourne autour de 2 réalités. Quand on exagère ces 2 réalités, on devient américain et manichéen. On ne peut pas faire un film sans qu'il y ait un méchant et un gentil. C'est pas possible. Les Français, eux, c'est toujours... On ne sait pas qui est le méchant, le gentil, c'est torturé. Avec un film américain, Brut de défonderie, Brut de décoffrage, pardon. Voilà, il y a le méchant, il y a le gentil, c'est simple. On passe un bon moment, on sait où on va. Le film français, vous êtes là, vous êtes là. Et qui est le... Mais c'est compliqué, compliqué. Pourtant, si on ne caricature pas, la vérité est au milieu. Tout ce que nous vivons à tout moment, du fait de notre esprit, que nous partageons avec les anges, c'est est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Et vous ne vous en rendez même pas compte. À tout moment, votre âme estime ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est bon et ce qui est mauvais. À tout moment. Vous sortez d'ici, vous voyez une voiture passer vite, votre âme immédiatement apprécie la vitesse et voir si c'est bon ou mauvais qu'il roule à telle vitesse. S'il roule tranquillement et il remonte la rue du boulevard Passonnière, votre âme accroche pas. S'il fait du 100 km/h et qu'il machin, vous dites, mais quel danger public. Mais à tout moment, vous voyez quelqu'un sur le trottoir, vous attendez le métro, vous reprenez votre voiture, tout. Le visage de l'autre le matin, la manière dont vous vous coiffez, vos vêtements, tout, vous jugez sans arrêt. Le pigeon, non. Le moustique, non plus. Le chat, non plus. Le chien, non plus. L'orque, non plus. Le dauphin, non plus. Le rhinocéros, non plus. La mygale, non plus. Et pourtant, vous voyez, vous avez des documentaires animaliers qui vous... quand même. Le bonobo, peut-être, quand même, le chimpanzé, non? C'est le propre des esprits de tout faire tourner sur le vrai et le faux, et le bien et le mal. Ou vous êtes heureux, ou vous êtes triste. Ou vous aimez, ou vous n'aimez pas. Haine, un mot un peu fort, hein, mais... Ou vous allez vers quelque chose ou vous le fuyez. Ou vous avez de l'espoir ou vous baissez les bras. Mais à tout moment, c'est ce qu'on appelle les passions. Vous vivez, c'est une de ces passions, à tout moment. Et c'est tellement naturel que, si vous voulez, quand on met des mots sur toutes nos pensées, ça pourrait être très drôle, si vous voulez, si vous étiez vraiment des philosophes, vous décortiquez toutes vos pensées, toutes vos actions. Et vous verrez que c'est toujours par rapport à quelque chose de bien pour vous ou de mauvais pour vous. Le grand exemple, c'est ce que nous allons faire, c'est manger. À tout moment, on apprécie notre nourriture. Si le goût est mauvais, si c'est avarié, si la texture est étrange, on arrête de manger. Si c'est agréable, on mange. On mange. On mange. Et si même on n'a plus faim, parfois on va continuer à manger tellement c'est agréable, ça s'appelle la gourmandise. Alors que vous en pouvez, mais c'est tellement bon. Mais voyez-vous, l'être aimé, c'est que vous trouvez tellement de qualité à l'être aimé que vous restez avec lui. Donc dans votre vie, il va falloir, en vérité, trouver les qualités plus que les défauts et inclure les défauts dans l'harmonie d'une personne humaine. Parce qu'à tout moment, vous apprécierez si c'est bien ou mal. Et à un moment donné, l'effort d'âme, c'est de voir ce qui est, comment dire, le présent et le futur et pas le passé. Ou alors le passé pour vous donner des éléments pour le futur. Mais ce qu'on appelle pessimisme ou optimisme, ça ne veut rien dire par rapport au réalisme et à l'espérance, au sens propre du terme. Et le mariage, il est intrinsèquement lié au réalisme et en même temps à l'espérance. Alors, voyez, quand vous serez, comment dire, quand on sera à trois, tout ça, j'essaierai un peu de vous... Le couple qui est venu, ça va plus vous poser des questions, faire un tour de table et tout ça, mais... Enfin, là, avec le repas, déjà, je pense qu'on va pouvoir un peu parler...